sentiment.
Venez, Esprit Saint, blessez les cœurs de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez inspiré le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, de nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous aimez toutes les femmes, et Jésus, fruit des entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Pédis, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Monsieur l'abbé Herbach, vous avez donc accepté de venir aujourd'hui, cet après-midi, et j'espère que vous prolongerez votre acceptation jusqu'à la fin de votre conférence. Et donc, je pense que l'abbé Herbach est connu de vous tous, il n'a pas besoin d'une grande introduction, ses connaissances en matière de la foi et des connaissances profanes sont très connues de tous, et il va nous présenter, exposé sur la foi et la littérature de l'Antiquité selon les pères de l'Église et surtout selon Monseigneur Gaume. Vous nous ferez part de cela, Monsieur l'Abbé.
Bon, alors, le sujet tel qu'il m'a été donné, ou plus exactement tel que j'ai compris, hein, il y a des petites nuances. C'est la foi et la littérature dans l'Antiquité. Alors, pour pouvoir parler clairement de ces choses, il faut cerner le problème. On se tait derrière. Merci. L'Antiquité, qu'est-ce que c'est que l'Antiquité ? Qu'est-ce qu'on entend par l'Antiquité ? De manière commune, l'Antiquité, c'est la période qui s'étend depuis l'origine du monde jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'Antiquité. Alors, si on parle de la littérature dans l'Antiquité, le problème est vaste. Hein, parce qu'il faudrait que nous parcourions chaque peuple pour savoir ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit. Hein. Et les peuples sont encore nombreux. Le sujet comporte une autre donnée, c'est la foi et la littérature. On n'a pas dit la foi dans la littérature, ce qui restreindrait le sujet. On m'a dit la foi et la littérature. Alors, si je dois parler de la foi et de la littérature dans l'Antiquité, la conférence est très courte, parce qu'il n'y a pas de foi dans l'Antiquité. Donc, la conférence est terminée. Bon, vous voyez, ce serait un moyen très rapide de s'en sortir, mais non, il y a quand même autre chose à dire. La foi et la littérature dans l'Antiquité, donc c'est une première acception. Oui. Maintenant, on peut regarder de plus près et nous pouvons nous rendre compte que parmi les peuples de l'Antiquité, ceux auxquels nous pensons le plus sont les Grecs, les Romains, en Occident c'est surtout ceux-là dont on parle et auxquels on pense, il y en a d'autres, il y a les Perses, il y a les Mèdes. Un peu plus loin, en Orient, vous avez les Hindous, bien qu'à cette époque, il n'y ait pas de grande littérature. Il y a les peuples chinois, le peuple chinois qui a une littérature très abondante et que vous connaissez au moins un des auteurs chinois de l'Antiquité si vous avez fait vos classiques, c'est-à-dire si vous avez lu Tintin et Milou en Chine. Là-haut, cela dit, il faut trouver la voie. Vous voyez, je vois qui sourit. Vous connaissez vos classiques, c'est très bien. Nous, on va se limiter. On va se limiter au peuple de l'Occident, c'est-à-dire à la Grèce et au peuple latin. Alors, la troisième exception qu'on peut donner à l'Antiquité, c'est l'étendre cette Antiquité. Ne pas s'arrêter à notre Seigneur Jésus-Christ, mais aller un peu après l'Antiquité commune. Et on va s'arrêter en 460, qui est la chute de Rome. Et on l'appellera alors l'Antiquité chrétienne. Oui. Eh bien, figurez-vous que ces trois exceptions, ces trois sens, vont me servir de plan pour cette conférence. Nous allons parcourir rapidement. Je n'ai pas pu amener toute ma bibliothèque, c'est dommage. Oui, je regrette profondément, croyez-moi. J'ai pris quelques miettes. Et nous allons essayer de parcourir, avec ces auteurs qui sont là, les trois sens. Donc voilà. Le premier sens, l'Antiquité dans cette période qui s'arrête à notre Seigneur Jésus-Christ. Dès l'origine du monde, le mal, vous le savez, s'est introduit dans le cœur de l'homme, dès l'origine du monde. D'où le fait qu'il y aura un double enseignement. Il y aura l'enseignement du bien, il y aura l'enseignement du mal. Le mal qui s'introduit dans le cœur de l'homme introduit dans l'homme un penchant, vous le savez, une attirance. J'allais dire quasi-physique, je ne vous ferai pas de dessin, vous le savez très bien, pour le mal. C'est un grand principe qu'il ne faudra jamais oublier. Donc voilà. Alors, l'enseignement de la foi et la littérature dans l'Antiquité vont se ressentir de cette attirance. Les peuples antiques vont perdre rapidement la notion de la révélation primitive. Ils ne vont pas la perdre complètement, mais elle ira en s'amenuisant. Tant et si bien qu'il va arriver un moment donné où elle sera quasi inexistante. Ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à se développer, mais la foi telle que nous l'entendons dans le sens catholique du terme, la foi en Dieu créateur, rémunérateur, sauveur, a pratiquement disparu de l'Antiquité, hormis le peuple juif. Et par conséquent, la littérature va s'en ressentir. La littérature va s'en ressentir. Il y a eu, au siècle dernier, M. Brandler vient de le rappeler, un très très grand débat sur cette question de la littérature dans les peuples antiques. Un grand débat. Ce débat a pour origine une discussion au Parlement entre un catholique et un franc-maçon. Le catholique dit au franc-maçon: la révolution de 1840 a pour origine ce que vous avez fait de la France. Le franc-maçon répond: c'est faux. Les révolutionnaires ont été éduqués dans vos écoles. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Et cette discussion va naître ce qu'on a appelé la guerre entre les classiques. Voilà. Est-ce qu'il faut étudier ces auteurs païens? Alors, pour pouvoir le savoir, il faut voir ce qu'ils ont écrit. Il n'y a donc pas, je viens de vous le dire, de foi dans l'Antiquité, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que s'ils n'ont pas la foi chrétienne, ils ne sont pas athées. Ils croient en n'importe quoi, ils croient en des roues de brouette, en des je ne sais pas quoi, en n'importe quoi, mais ils ne sont pas athées, ce ne sont pas les communistes. Ils ne sont pas athées. Alors, de quoi vont-ils parler? Il ne faut pas que je me trompe de livre. Alors, il y a plusieurs auteurs qui sont connus, les Grecs et les Latins. Particulièrement chez les Latins, nous connaissons les grands noms des auteurs latins, comme Jules, César, Cicéron, Sénèque, des personnages qui sont apparemment digne de foi, n'est-ce pas, digne d'éloge, et nous voulons savoir ce que dans leurs livres ils ont véhiculé en matière de religion. Pour l'instant, est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, on va voir César. D'abord, je vais vous montrer ce que l'on a écrit de César. En matière d'encens, c'est pas mal. La maison de César, dit-on au XVIIe siècle, de Jules, la maison de César était conduite avec un ordre, une attention, une discipline que nous trouverions sans doute fort extraordinaire dans nos mœurs. César était très sobre, très poli, très doux, affable, affectueux. Il serait difficile de vouloir le disculper sur le penchant qu'il avait à la galanterie, mais il ne se laissait point asservir. Comme il détestait la cruauté, il ne fit jamais souffrir aucun tourment à ceux qu'il fit mourir. Rigolo. Il fit jusqu'à la mort autant de progrès dans la vertu qu'Alexandre en avait fait dans le vice. Voilà ce qu'on dit de lui au XVIIe siècle. D'accord ? Excusez du peu. Bon. Que disent les contemporains de César ? Nous sommes toujours dans la littérature, dans l'Antiquité, et puis vous allez voir ce dont il s'agit en matière de foi. Suétone était un auteur de l'époque, un petit peu après César, de Jules César. Et voilà ce que Suétone dit de César. On sait que César a écrit un livre qui s'appelle « La guerre des Gaules ». Il a fait aussi un autre livre dans lequel il fait des commentaires sur l'histoire de son temps. Et voilà ce que dit Suétone de César. « C'est une œuvre peu soignée, dans laquelle, volontairement ou par erreur, la vérité est très peu souvent respectée. » Donc il a menti. « Quant à l'homme, il est sans religion, sans foi, sans mœurs. César est un ambitieux qui, pour arriver au pouvoir, ne recula devant aucun moyen, ni le parjure, ni le vol, ni la cruauté, ni le sacrilège. On ne voit dans César, continue Suétone, ni les vraies lumières sur la religion, ni respect pour elle. Dans l'occasion, il se moquait publiquement de celle de son pays. Son opinion dans l'affaire bien connue de Catilina montre clairement qu'il ne croyait point à l'existence d'une autre vie. Vérité sans laquelle il n'y a aucune morale sur la terre. Il ne croyait point à l'existence d'une autre vie, vérité sans laquelle il n'y a aucune morale sur la terre. On croirait qu'il parle pour aujourd'hui. Oui. Ça, c'est notre Jules, voyez, Jules, tel que le décrivaient ses contemporains. En lui, l'ambition marche de pair avec la volupté. Avant l'âge de 20 ans et avant d'avoir obtenu aucune charge, il a dévoré sa fortune et s'est endetté d'environ 5 millions de sesterces. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Cette somme fabuleuse, il l'a employée en partie à solder ses débauches et en partie à se faire des créatures. Voilà. Voilà pour César. Je suis obligé d'arrêter là les citations parce que c'est scandaleux. Cicéron, un autre auteur, je vais prendre seulement quelques exemples de l'Antiquité, n'est-ce pas, pour vous montrer ce qu'il faut penser de ces gens-là. Alors c'est pareil, Cicéron, c'est extraordinaire. Il a des éloges, Cicéron, à côté desquels les éloges de César sont du beurre, n'est-ce pas. Depuis que je touche, écrit Erasme, un religieux de la Renaissance, depuis que je touche à la vieillesse, je prends plus de plaisir à la lecture de Cicéron que je n'ai jamais fait dans les premiers temps de ma vie. Ce n'est pas seulement le tour divin de son style, sa morale et la sainteté de son cœur. Vous allez voir la sainteté de son cœur. Il a inspiré mon âme et il m'a fait sentir qu'il m'a rendu meilleur. Je n'hésite donc pas à presser notre jeunesse d'employer le temps à lire ses ouvrages et à les apprendre par cœur. Le même continue à un autre. Il dit « Tu dois lire Cicéron ». Et maintenant, et dans la suite, et pour toujours, non seulement le lire, mais le dévorer et l'absorber par tous les moyens et par toutes les puissances. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est clair ? Monsieur Lannon, vous comprenez ? Bon, parce que... Jean-Baptiste était très saint parce qu'il prêchait dans le désert, vous voyez, mais je ne suis pas encore saint, moi. Alors, par une vertu qui ne soit en lui et qui n'y brille, qui n'émeuve, c'est comme un torrent qui inonde le lecteur de toutes les voluptés de l'écriture. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de Cicéron ? Attends, il y a une autre citation, là, voilà. Donc, Cicéron est l'oracle universel du genre humain. C'est le plus grand des orateurs. C'est le plus distingué des philosophes. C'est le plus habile homme d'État. C'est le vrai père nourricier de la jeunesse. C'est le modèle de toutes les vertus. C'est le meilleur, le plus honnête, le plus aimable des hommes. Un chrétien, le best, quoi. Un chrétien est même des plus parfaits, même des plus saints. Excepté les miracles, qui sont peu de choses, il ne lui manque pas grand-chose. Alors maintenant, cet homme extraordinaire, voyons voir qu'est-ce qu'il avait comme enseignement. Tout d'abord, Cicéron n'est sûr de rien. Cicéron doute de toute chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Voilà ce que dit Cicéron. Dans son livre qu'on appelle Les Académiques, il dit « J'en reviens au sentiment de mon père, deux points. Je crois qu'on ne peut avoir sur rien de perception certaine. » C'est-à-dire que je ne suis sûr de rien. Il doute en permanence. Au point de vue sécurité en philosophie, cet homme dit « Je crois qu'on ne peut avoir sur rien de perception certaine. » Voilà. Donc, il est sûr de rien. Ce principe, c'est l'âme de tous les ouvrages de Cicéron. Pour le justifier et le répandre, il le met en action. Sa méthode consiste à faire battre entre les différents systèmes et à exposer le sien. Alors j'ai pris quelques exemples. Sur la divinité, il a discuté longuement sur la divinité, son existence, sa nature, sa providence. Dans les discussions que nous avons entamées sur Dieu, je me suis borné à de simples discussions sans jamais me permettre de porter un jugement. Dans les discussions que nous avons eues sur Dieu, je me suis borné à de simples discussions sans jamais me permettre de porter un jugement. Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il existe. Comment voulez-vous qu'il parle des autres choses ? Bon. L'entretien étant demeuré à ce point, continue Cicéron, nous nous séparâmes dans la persuasion que notre ami Cotta avait plus approché de la vérité. Et moi, j'avais plus approché encore de la vraisemblance. Donc Cicéron n'est pas sûr de Dieu. Sur l'immortalité de l'âme, nous sommes bien dans la foi. La foi est la littérature de l'Antiquité païenne. L'immortalité de l'âme. Cicéron est-il plus affirmatif en écrivant à Caton? Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il croit à l'immortalité de l'âme et que cette croyance fait son bonheur, que rien ne pourra lui ôter. Mais ailleurs, il continue en disant « Toutefois, en m'entendant, ne crois pas entendre Apollon lui-même et ne prenez pas ce que je vous dis pour des dogmes indubitables. » Donc il n'est pas sûr que l'âme soit immortelle. « Je cherche la vraisemblance, mes lumières ne sauraient aller plus loin. » Voilà. Il foule aux pieds la tradition du genre humain qui a parlé de l'immortalité de l'âme. Ailleurs, toujours pour l'immortalité de l'âme, et les fins dernières, dire que les morts sont misérables, c'est vouloir que nous soyons nés pour une misère sans borne. N'est-ce point que l'image des enfers vous effraye? Un cerbère à trois têtes, les flots bruyants du Cocyte, le passage de l'Achéron, toutes les choses qui représentaient l'enfer. Pensez-vous que j'extravague jusqu'à donner dans ces rêveries, parle-moi du monde? Il n'est pas difficile de prouver que les tourments des enfers ne sont que pure imagination. Mais s'il n'y a point de misérable dans les enfers, personne n'y est donc, et moi, je n'y crois personne. Ça ne vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle l'affirmation récente d'un très grand personnage qui dit « Si l'enfer existe, il est vide. » Rien de nouveau sous le soleil. « Je ne vois qu'une chose, dit-il ailleurs, c'est de prendre patience, puisque la mort est l'anéantissement de toute chose. » Concernant la création du monde, il ne faut point attribuer à Dieu, plutôt qu'à la nature, tout ce qui a un cours régulier et constant. Donc, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Il ne faut point attribuer à Dieu, plutôt qu'à la nature, tout ce qui a un cours régulier et constant. « Si une maison est belle, dit Cicéron, comprenons qu'elle est élevée par des hommes et non par les rats. Nous devons donc penser que le monde est la demeure des dieux. » Donc pour Cicéron, l'homme c'est Dieu. « J'écoute avec plaisir ce que vous disiez, mon cher Balbus, de l'harmonie du monde. Mais je n'admettais point qu'il fallût pour cela un esprit qui le contienne. Le monde se maintient et demeure par les forces de la nature seule. » Et non des dieux. Permanet naturae viribus et non deorum. Voilà. Est-ce que pour la providence divine, c'est pareil? Le hasard, écrit-il à un autre ami, en décidera. Ô Dieu, s'il y en a un qui s'occupe de nous. Le hasard en décidera, ou Dieu, s'il y en a un qui s'occupe de nous. En latin, pour les latinistes, sed de illa force viderit, aut si quis es qui curet Deus. Même scepticisme sur la religion, cela doit être. Voilà, Cicéron, suivant sa coutume, fait parler le pour, fait parler le contre, et finit par tourner en dérision toute espèce d'affirmation. Voilà. Conclusion, donc vous voyez un autre auteur de l'Antiquité, Cicéron est un libre penseur qui disserte sur tout et qui ne croit à rien. En philosophie sociale, c'est pareil. Je ne peux pas vous définir tout ça, mais c'est intéressant de voir que pour Cicéron, la société n'est pas une création de Dieu. La société, c'est la volonté de l'homme qui l'a fait. C'est l'origine de la Révolution française. Et je vais vous lire ce passage. En philosophie sociale, Cicéron est-il un guide plus sûr ? Depuis la Renaissance, il existe en Europe une philosophie qui tient la formation de la société pour un fait purement humain. Conséquence, la société, œuvre de l'homme, repose exclusivement sur la volonté de l'homme, manifestée par un prétendu contrat en vertu duquel le genre humain est devenu bourgeois de sauvage qu'il était. Cette affirmation a été renouvelée par Machiavel, développée par, je prononce à la française, excusez-moi, Hobbes, par les publicistes païens du XVIe et XVIIe siècle. Mais cette théorie, que l'on retrouve dans Rousseau, était celle de Cicéron. Ça, c'est pour vous montrer donc des auteurs de l'Antiquité dite païenne. Quant à Platon, c'est pareil. Pour Platon, je n'ai pas retrouvé le passage, malheureusement. Platon a une vie épouvantable, une morale épouvantable, au point qu'il est absolument interdit de lire Platon dans les premiers siècles d'Église. Nous allons y revenir. Nous sommes toujours dans l'Antiquité, avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc avec ces auteurs, nous avons un exemple à peu près exact de ce que l'on trouve dans la littérature antique. Je vous ai dit qu'il y a un peuple qui a gardé la foi. Ce peuple, c'est le peuple béni, le peuple choisi, un peuple admirable, malgré tout, au moins jusqu'à notre Seigneur. Page 676. C'est le peuple juif. Le peuple juif, donc, a une littérature, c'est très simple, c'est la Bible. La Bible, et le peuple juif n'avait que la Bible. Il était absolument interdit de lire autre chose que la Bible. Quoniam non conievi literaturam, parce que je n'ai pas lu la littérature, etc. Donc, vous connaissez bien la Bible, je ne vais pas vous faire un cours sur la Bible parce que ce n'est pas le sujet, mais puisque nous parlons du peuple juif, je vais vous montrer ce que contient la Bible. La philosophie juive par rapport à celle des païens que nous venons de voir de Cicéron. On trouve dans la Bible beaucoup de renseignements sur l'idée que se faisaient les Hébreux de l'homme, sur sa nature physique, intellectuelle, morale, sur ses relations naturelles avec Dieu, et la distinction avec la nature. D'abord, la Bible nous apprend que l'homme a préexisté d'une manière idéale dans la pensée de Dieu. Ça veut dire l'homme a d'abord existé, avant d'exister sur la terre, il existe dans la pensée de Dieu. Il a préexisté dans la pensée de Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole divine était avant cette création, suivant l'expression de saint Paul, c'est-à-dire n'avait pas encore été amené à la réalité par sa manifestation dans le temps et dans l'histoire. Le plan de Dieu est conçu de toute éternité et l'homme, non seulement l'ensemble des hommes, mais même chacun des hommes individuellement est compris dans ce plan et est vu dans le plan de Dieu. Donc le bon Dieu nous a tous vus. Ça, c'est dans la Bible, dans l'Antiquité. La foi et la littérature dans l'Antiquité. La personnalité humaine est clairement marquée par la Bible. Le moi y est parfaitement indiqué. L'Écriture sainte fait ressortir également l'opposition essentielle de l'esprit et de la matière. Toute vie, suivant l'Écriture sainte, est activité et opération de l'esprit. Soit que ce qui est vivant soit l'esprit lui-même, comme Dieu, soit qu'il soit seulement doué d'une âme spirituelle, La chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. Le récit de la création de l'homme montre cette composition de sa nature. Voilà. La liberté humaine n'est pas moins affirmée par la Bible, qui rappelle sans cesse que l'homme peut choisir librement. La vie et la mort, la bénédiction, la malédiction ont été placées devant les premiers hommes, devant les fils d'Israël, comme résultat de la loi donnée sur le mont Sinaï. Ils peuvent choisir. L'homme peut choisir entre ce que Dieu veut et entre ce que lui-même veut, contrairement à la volonté divine. Il est libre dans sa conduite envers Dieu. « Vous n'avez pas voulu » est l'une des dernières paroles de notre Seigneur à ses concitoyens. Les facultés de l'âme sont énoncées très clairement dans la Bible. L'âme a sa vie propre. Elle pense, elle connaît et exprime ses pensées. Partout où l'Écriture parle de la génération, un autre point, et de la conception, elle rapporte à ce fait le commencement de l'être et la vie de l'homme. La Bible distingue même les sexes dès ce moment. L'embryon est appelé en hébreu. Bon, je ne peux pas vous dire en hébreu, qu'est-ce que c'est. Son développement passe aux yeux des sages d'Israël pour l'un des plus profonds mystères de la création. Et c'est ainsi que le psaume 138 dit « C'est vous qui m'avez formé, qui, au Seigneur, qui avez formé mes reins, qui m'avez tissé dans le sein de ma mère. Je vous loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vos œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant vous lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais embryon et sur votre livre était tout inscrit, les jours de mon avenir dont aucun n'existait encore. » Job, qui n'est pas un juif mais très sûrement un païen, du 18e siècle avant Jésus-Christ, et dit également « Vos mains m'ont formé et elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et vous me détruiriez, convenez que vous m'avez façonné comme de l'argile. Voudriez-vous maintenant me détruire en poudre? Ne m'avez-vous pas roulé comme du lait? Ne m'avez-vous pas fait caillé comme un fromage, vous m'avez revêtu de peau et de chair, vous avez tissé mes os et mes nerfs, vous m'avez accordé la grâce avec la vie, et vous m'avez conservé par les soins sous votre parole. » Donc vous voyez, la philosophie dans la Bible est beaucoup plus développée que ce que l'on trouve chez les autres païens. Même, malheureusement j'ai perdu le texte, hein, chez Platon et Aristote, la tradition nous rapporte que les deux grands philosophes ont été influencés par la présence des colonies juives qui se trouvaient particulièrement en Grèce. C'est le contact du peuple juif qui a provoqué ce développement de la philosophie de manière remarquable, bien sûr, mais enfin, c'est le contact des juifs qui a développé la philosophie chez les Grecs. D'après la doctrine de la Bible, l'âme est créée en même temps que le corps est formé par la conception. Une seconde forme de vie est celle du souffle. Pour la Bible, l'expression « un seul corps » indique une unité parfaite de volonté, de pensée et de sentiment. Le cœur est également le centre de vie morale, depuis le plus grand amour pour Dieu jusqu'à l'orgueil qui se déifie lui-même. Là, dans le cœur, s'élabore et de là sortent toutes les pensées et les actions, bonnes ou mauvaises. Le cœur est le rendez-vous des mauvais désirs et des passions. C'est un bon ou un mauvais trésor. Le cœur est le siège de la conscience. C'est avec le cœur que l'on croit. En un mot, le cœur est le centre de l'homme tout entier. Beaucoup d'anciens du reste attribuent au cœur le rôle que lui donne l'Écriture. Quant à l'état de l'âme après la mort, comme ce sujet rentre plutôt moins, etc. Il y aurait beaucoup à dire également sur les explications des sommeils et des rêves chez l'homme. C'est dans le cœur que se forment les rêves, qui ne sont que des illusions vaines et sans fondement, à moins que Dieu s'en sert pour faire connaître ses volontés. Dans ce cas, on peut les distinguer en rêve très facilement, nous dit l'Écriture. Voilà. Alors maintenant, une chose qu'on peut voir, c'est l'enseignement qui avait lieu chez les Juifs. L'enseignement est donné d'abord, bien sûr, par les parents. Les rudiments sont donnés par les parents. C'est un enseignement qui est d'abord populaire. L'enseignement du peuple constitue uniquement dans l'étude de l'Écriture sainte. Vers l'ère chrétienne, il y avait des petits rouleaux, des parchemins destinés spécialement à l'usage des enfants et qui contenaient quelques parties de l'Écriture. L'histoire de la création, celle du déluge et les 8 premiers chapitres du Lévitique. Les enfants étaient vers 6 ans envoyés à l'école où l'on se rendait compte de leur capacité. Des écoles élémentaires de ce genre étaient à l'époque de notre Seigneur attachées à toutes les synagogues du pays. Les ordonnances d'Esdras nous le montrent également. Quant aux académies grecques, qui avaient été instituées par le grand prêtre Gerson, elles étaient entièrement opposées à l'esprit des institutions hébraïques. Quant aux académies grecques, elles étaient entièrement opposées à l'esprit des institutions hébraïques. Je viens de vous montrer donc la littérature du côté latin, mais c'est pareil chez les Grecs. Cette littérature était diffusée chez les Grecs et les Latins par des académies. L'une d'entre elles a été fondée en Palestine. Eh bien, c'est opposé, c'est diamétralement opposé à l'enseignement, aux institutions hébraïques. Ainsi, plus tard, les rabbins ont-ils interdit toutes les académies et en particulier les exercices de gymnastique. À 10 ans, alors, il est certain que pour les Juifs, tout ce qui touche aux enfants est particulièrement saint et qu'on cherche à les pénétrer de pensées, de sentiments religieux. Le peuple partage la pensée de notre Seigneur et pensait que les anges des enfants sont toujours devant la face du Père Céleste. De là les soins pieux donnés à leur éducation. On sépare les enfants de tout contact avec les vicieux. On leur épargne tout sentiment d'amertume, on punit toute mauvaise action. Aucune préférence ne doit être manifestée pour un enfant plus que pour un autre. On fait voir la laideur du péché de préférence aux châtiments qui le suivent, soit dans le monde actuel, soit dans le futur. Le maître ne doit rien promettre à l'enfant de ce qu'il ne peut pas tenir. Il doit éviter tout ce qui peut provoquer des pensées désagréables ou déshonnêtes. Je répète, il doit éviter tout ce qui peut provoquer les pensées désagréables ou déshonnêtes. Il ne doit pas perdre patience dans les difficultés qu'éprouve l'élève. Il doit punir lorsque c'est nécessaire et traiter l'enfant comme une génisse dont on augmente chaque jour le fardeau. Il peut, en cas de châtiment nécessaire, frapper avec une lanière, mais jamais avec une baguette. C'est très pratique. À 10 ans, l'enfant commence à apprendre la Mishnah. À 15 ans, il devrait être en état de se livrer à l'étude de la tradition. Si après 3 ou 5 ans d'études, l'élève n'a pas fait de progrès, on renonce à le faire avancer. Dans l'étude de la Bible, dans l'étude de la Bible, il commence par le Lévitique, passe au livre du Pentateuque, puis au prophète, puis au vie des saints. Les élèves, un peu avancés, divisaient leur journée en 3 parts, dont l'une était consacrée à l'étude de la Bible et les autres au vie des saints. En général, l'école se tenait dans la synagogue et habituellement le maître était le kazan. Payé par la communauté, il ne pouvait rien recevoir de ses élèves. Le nombre des heures de classe était limité. À cause de la chaleur du jour, les leçons étaient interrompues de 10 à 3 heures dans le milieu de la journée. En juin et juillet, on ne consacrait que 4 heures à l'enseignement. Les plus grands honneurs étaient attachés à l'office d'instituteur lorsqu'il était dignement rempli. L'enseignement supérieur. Il était habituellement donné par les scribes, soit à la synagogue, soit dans une maison spéciale destinée à cela, en particulier le temple de Jérusalem. Par exemple, Saint Paul était enseigné par les scribes. Le nom d'un d'entre eux, Gamaliel, était enseigné par les scribes. À la synagogue, après avoir lu le texte, ils le traduisaient en langue vulgaire, puis ils exposaient les traditions en montrant l'application. Enfin, ils donnaient une explication mystique et allégorique de l'Écriture sainte. Alors, ils étaient enseignés par les scribes. On a eu un professeur à ce sujet qui nous a donné quelque chose de très intéressant, c'était le Perspic. Perspic disait que c'était la grande erreur. La grande erreur, les scribes, vous savez que ce n'étaient pas les prêtres. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ, lorsque les scribes vont rentrer, les Hébreux vont rentrer en Palestine, on n'a plus de rouleau de la loi. Il en reste un seul qu'Esdras va faire recopier. Que Zorobabel veut faire recopier, puis par la suite Esdras. Alors, comme il faut les copier, on va les donner aux gens les plus capables de les recopier. Ces gens vont se mettre à écrire, des scribouillards, des scribes. Mais parce qu'ils écrivent, ils vont savoir la Bible. Et parce qu'ils vont savoir, ils vont se donner l'autorisation de l'interpréter. Perspic dit, ils ont perdu le sens de l'écriture à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de l'enseignement. Ils avaient seulement comme rôle de transcrire, les secrétaires, quoi. C'était les ordinateurs de l'époque, si vous voulez. Bon. Mais ils n'ont pas à donner le sens. Et parce qu'ils ont laissé aux laïcs le soin de l'enseignement et que les prêtres s'en sont déchargés, ils ont perdu le sens exact de l'Écriture sainte. Et c'est une des raisons fondamentales. Voilà, donc vous voyez, nous sommes toujours dans la foi et la littérature dans l'Antiquité. Alors là, vous avez vu déjà, bien sûr, le tableau qui est un contraste très grand, très fort. Alors maintenant, nous continuons dans la troisième acception. Je vous ai dit qu'on pouvait étendre le mot Antiquité jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Cinquième siècle après Jésus-Christ, pratiquement, ça correspond à la chute de Rome. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Pour mieux le comprendre, si vous voulez, pour mieux comprendre ceci, nous constatons que l'Église va avoir un enseignement constant jusqu'au 15e siècle. Cet enseignement constant va être tel qu'il finira par porter des fruits. Les fruits, ce sera une société chrétienne. Alors, cette société chrétienne se traduit en Europe, dans l'Europe chrétienne, par le respect et la soumission envers l'Église. Bon an, mal an, les lois, les arts, les sciences sont soumises à l'Église. Tout est soumis à l'Église. Deuxièmement, nous constatons qu'à partir du XVe siècle, ce respect envers l'Église s'affaiblit. L'union entre l'Église et la société est ébranlée. Tout annonce une rupture qui arrive, troisièmement, au début du VIe siècle. Quelque part, en Allemagne, un moine dans sa cellule se révolte. Ce moine s'appelle Luther, Martin Luther. Il se révolte. Il proteste. Je ne veux pas. Et c'est pourquoi on les appellera des protestants. Nous sommes, diront-ils, à la diète d'Augsbourg, des protestants. Nous protestons. Bon. Nous constatons également que cette rupture qui a eu lieu entre la société et l'Église dure encore aujourd'hui. Et enfin, cinquièmement, nous constatons que malgré cette rupture, et même depuis cette rupture, quoi qu'on en dise, il faudrait le prouver, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, l'Église n'a pas changé. La rupture demeure, l'Église n'a pas changé. Depuis notre Seigneur, elle s'est, si vous voulez, adaptée à des situations, mais son enseignement est constant. Même en 1996, l'enseignement est constant, et vous en êtes la preuve. Donc, on peut dire que depuis le XVe siècle, il s'est passé quelque chose de nouveau dans l'histoire des sociétés chrétiennes. Il y a eu quelque chose qui s'est introduit et qui a provoqué, à partir du XVe siècle, un bouleversement. Alors, quelle est cette cause? Quel est cet élément nouveau qui s'est introduit au XVe siècle qui va provoquer cette rupture entre l'Église et la société? On va faire un petit peu de philosophie, un tout petit peu. On va rappeler quelques principes. D'abord, tout est fait à une cause. D'accord ? Tout est fait à une cause. Ça, c'est un fait. J'ai là, je livre, il tombe par terre. C'est normal. Donc, tout est fait permanent à une cause permanente. Si le fait demeure, vous êtes sûr que la cause va continuer. D'accord ? Deuxième principe. Toute parole, toute action humaine, qu'elle soit publique ou privée, est l'effet du libre arbitre ou de la volonté. Je répète, toute action, toute parole, publique ou privée, est un effet du libre arbitre ou de la volonté. La volonté qui va être mue par des idées, et qui va entraîner un vouloir, la chose voulue. D'où l'affirmation « ignoti nulla cupido ». Pour ceux qui ne connaissent pas, pas de concupiscence. Je ne peux pas désirer quelque chose que je ne connais pas. Autrement dit, « nihil volitum, nisi preconitum ». On ne peut rien vouloir à moins qu'on ne le connaisse auparavant. Je ne peux pas vouloir quelque chose que je ne connais pas. D'accord ? Troisième principe, ces idées qui sont en moi, viennent d'où ? Elles viennent de l'enseignement que j'ai reçu. Ces idées qui sont en moi viennent de l'enseignement que j'ai reçu. L'enseignement qui peut être oral, par exemple chez les Hébreux, qui peut être écrit, ou qui peut être tout simplement par des exemples que je vois. D'accord ? Quatrième affirmation, c'est l'enseignement qui fait l'homme. C'est l'enseignement qui fait l'homme. Et ça, c'est une affirmation de la Sainte Écriture. Tel qu'il fut au jour de son adolescence, tel l'homme sera au jour de sa vieillesse, et il ne changera pas. Tel qu'il fut au jour de son adolescence, je vais vous donner une référence qui est très forte, tel l'homme sera au jour de sa vieillesse, et il ne changera pas, Proverbe 22, 6. Cinquièmement, la vie de l'homme se partage en deux étapes. La première consiste à recevoir, quiconque veut apprendre doit commencer par se taire et non pas par discuter. Voilà pourquoi on ne comprend pas du tout les gens qui viennent pour recevoir un enseignement qui discute. Il faut choisir. Si vous voulez recevoir un enseignement, taisez-vous et laissez-moi causer. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut parler. Bon. Et puis deuxièmement, transmettre. Si vous avez compris, après vous pourrez transmettre. Donc la vie de l'homme se partage en deux. Enfin, en transmettant ce qu'il a reçu, l'homme fait sa propre famille. Et il fera sa famille à l'image de ce qu'il a reçu. C'est une affirmation très simple, mais qui se vérifie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, la société sera à l'image de ce que l'homme aura reçu. Pour le bien comme pour le mal, l'influence vient d'en haut et non d'en bas. Les opinions des classes lettrées forment les opinions et les mœurs de celles qui ne le sont pas. Est-ce que pour l'instant vous suivez toujours hein ? Ce sont des affirmations très claires, très importantes. Enfin, les opinions viennent essentiellement de l'éducation et de l'éducation littéraire. C'est pourquoi elle a été complètement abolie par cette fameuse révolution qui règne dans le monde. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que la littérature populaire se résume à la musique et au théâtre. L'éducation vient des livres, des textes, on peut dire aujourd'hui des journaux, des revues qu'on met entre les mains de la jeunesse. Et ceci pendant les années les plus importantes, celles où ça s'imprime dans l'intelligence. Cette jeunesse qui va conserver pour toujours ce qu'elle reçoit pendant les années qui durent 7 à 8 ans, qui unissent l'enfance à l'adolescence. Pour les Hébreux, l'enfance se termine pratiquement 7 ans. Ensuite, c'est l'adolescence, 7 à 8 ans, On arrive à environ 15-16 ans, et après il devient un homme, il devient responsable. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont assez importantes. Là, je vais prendre le livre, si vous permettez, et solutionner le problème. L'opinion et les mœurs des classes lettrées viennent surtout de leur éducation littéraire. Cette éducation se fait principalement par les livres qu'on met entre les mains de la jeunesse pendant les 7 ou 8 années qui unissent l'enfance à l'adolescence. Pour trois raisons. Premièrement, parce que ces années sont les années décisives de la vie. Deuxièmement, parce que ces livres sont la nourriture quotidienne de la jeunesse et même sa nourriture obligée. Elle doit les étudier avec soin. Elle doit les apprendre par cœur. Elle doit s'en pénétrer par le fond et pour la forme. Troisièmement, parce que cette étude assidue est accompagnée d'explications de commentaires dans le but de les bien faire comprendre et d'en faire admirer le style, les pensées, les beautés de tout genre. D'accord ? Donc, en droit, tout vient de l'éducation. Les sages de tous les temps l'ont proclamé, à nos yeux, disent-ils, l'unique moyen de réformer le genre humain, c'est de réformer l'éducation de la jeunesse. Oui, actuellement, c'est ce qu'ils font exactement partout, pas seulement au Québec, en France, dans tous les pays, l'État révolutionnaire tient l'éducation. Il y a eu un livre dont je ne me souviens ni du titre ni de l'auteur, mais qui montre que les réformes de l'éducation qui ont été faites dans tous les pays correspondent à un plan très précis de la formation. Ils veulent rendre la jeunesse bête. Mais vous voulez que je vous dise, ils sont arrivés. Ils vont dans la rue, puis voilà. Ils ont libéré l'homme. C'est rigolo. Bon. L'éducation est le seul levier avec lequel on puisse soulever le monde. L'éducation, c'est l'empire, parce que l'éducation, c'est l'homme, et que l'homme, c'est la société. Ce que la Bible disait aussi, la férule du maître, c'est le sceptre du monde. Voilà. Et ceci, l'ennemi l'a mieux compris que nous. Donc, c'est dans l'éducation que nous sommes forcés de chercher la cause première de la rupture entre la société et l'Église. La société chrétienne, qui était chrétienne et l'Église. Longtemps avant cette rupture, je vois dans toute l'Europe l'éducation publique reposant sur l'organisation suivante, les universités et les gymnases ou collèges. Après la rupture, je retrouve la même organisation. En France, elle a subsisté dans toute son intégrité jusqu'au siècle dernier, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle subsiste encore généralement dans toutes les parties de l'Europe. Sous ce rapport, rien de nouveau. Quant au fond, rien de plus, rien de moins. Avant la rupture du XVe siècle, je vois qu'on enseigne dans les universités et les gymnases le latin, le grec, les langues vivantes, langues orientales, la grammaire, la philosophie, la rhétorique, les sciences physiques et mathématiques. Après la rupture, je trouve qu'on enseigne les mêmes choses. Sous ce second rapport, rien de nouveau, ni quant au fond, rien de plus, rien de moins. Avant la rupture du XVe siècle, je vois qu'on enseigne avec un soin particulier les vérités de la religion, que les maîtres et les élèves, à peu d'exception près, en accomplissent fidèlement les devoirs. Après la rupture du XVe siècle, je trouve qu'on n'enseigne pas moins fidèlement la religion que les maîtres et les élèves en général continuent jusque dans le dernier siècle de remplir exactement les préceptes. Sous ce troisième rapport, rien de nouveau. Quant au fond, rien de plus, rien de moins. Avant la rupture, je vois l'enseignement placé entre les mains du clergé et des ordres religieux. Après la rupture, je trouve qu'il en est de même dans tous les pays catholiques, même en France, jusque vers le milieu du siècle dernier, donc le XVIIIe siècle. Sous ce quatrième rapport, rien de nouveau, et quant au fond, rien de plus, rien de moins. Avant la rupture. Oui. 10 sur 10. Alors, avant la rupture, je vois assis sur les chaires les gymnases des universités, des maîtres irréprochables, pieux et aînés, des docteurs illustres et en grand nombre. Et cela dans les sciences. Après la rupture, je trouve la même chose. Sous ce cinquième rapport, rien de nouveau, rien de plus, rien de moins quant au fond. Avant la rupture, je vois l'enseignement parfaitement libre, le monopole n'étant pas inventé. Après la rupture, je trouve, pendant près de 3 siècles, la même liberté, le dogme païen du monopole est né de nos jours. Sous ce sixième rapport, rien de nouveau, et quant au fond, rien de plus, rien de moins. Tels sont bien, sauf l'erreur, les points de comparaison les plus saillants, sous lesquels se présente en 2 époques l'éducation publique. D'où vient que les résultats se ressemblent si peu? D'où vient que la même source, abreuvant les générations naissantes, communique aux unes la vie catholique dans toute sa rigueur, tandis que les autres n'y puisent qu'une langueur mortelle? D'où vient que la même éducation, dont l'action toute puissante, donna à la société du Moyen-Âge cette force de cohésion, contre laquelle vinrent se briser les attaques de l'hérésie, du sensualisme, du despotisme, s'est trouvé tout à coup sans force pour la protéger contre les mêmes tentatives, au point que l'hérésie, le sensualisme et le despotisme n'ont eu qu'à se présenter pour entrer à pleine voile au cœur de l'Europe. Dira-t-on que ce résultat doit être attribué aux circonstances extérieures? Non. Reste donc à chercher la vraie cause, la cause générale et permanente du mal dans l'éducation, et ici est toute la difficulté. Alors, solution du problème, on saute. Que s'est-il passé? Eh bien, à partir du XVe siècle, et ça aurait pu être, si vous voulez, le sujet de la conférence que je devais donner hier, à partir du XVe siècle, on assiste à la renaissance des auteurs païens. On remet en vigueur, dans la société, les auteurs dont je vous ai parlé, Jules, Cicéron, Sénèque et Tutti Quanti, hein, et tous les autres. Depuis le XVe siècle, vous coulez vos enfants dans un moule païen et vous vous étonnez de ne pas en retirer des chrétiens. Écoutez votre histoire. Pendant toute la durée du Moyen-Âge, l'éducation fut exclusivement chrétienne, et cela dès le temps des apôtres. N'est-ce pas? Elle n'y touchait, jamais les livres païens n'étaient remis comme classiques aux mains de la jeunesse. Elle n'y touchait qu'à l'âge où l'esprit, le cœur, l'imagination, l'âme, enfin, coulés dans le moule du christianisme, avaient pris sa forme absolue. Donc, c'est très clair. Il ne s'agit pas d'une exclusion totale de la connaissance de ces auteurs, mais il s'agit d'étudier d'abord et avant tout le christianisme. Alors, comment cela s'est-il passé aussitôt après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, on peut dire que jusqu'au XVe siècle, je n'irai pas au-delà parce que mon sujet était limité à l'Antiquité, eh bien, jusqu'au Ve siècle, les apôtres vont se trouver dès le départ en opposition flagrante avec le monde païen. Deuxièmement, les apôtres issus du judaïsme vont continuer à en prendre les règles, même et surtout quand il s'agit de l'éducation. Vous avez vu chez les juifs à quel point l'éducation est capitale. Donc, pour les apôtres, troisièmement, les chrétiens étaient exclus de la société. Il y a un professeur de Lyon qui a écrit un livre, je ne sais plus son nom, ça va revenir, quoi, mais il a écrit un livre pour montrer que les Esséniens, c'est les premiers chrétiens. Ils sont exclus physiquement. Ils ont leur propre bibliothèque, leur propre enseignement, leur propre maître. Ils ont leur propre enseignement, leur propre maître. D'accord? Alors, les apôtres vont continuer et ils vont distinguer toujours l'enfance de l'adolescence. Hein? Dans la première partie de l'éducation, donc dans l'enfance, les livres classiques, ce qu'on appelle maintenant classiques, donc les auteurs païens, sont strictement interdits. Tout le monde sait que les langues que nous appelons aujourd'hui classiques ou mortes étaient alors les langues vivantes de Rome, d'accord, et d'Athènes. Les enfants apprenaient ces langues non pas dans les écoles, mais dans le foyer domestique. Non pas de maîtres étrangers, mais de leurs parents et de leurs nourrices. Non par des règles, mais par l'usage, comme nous apprenons nous-mêmes notre langue maternelle. Or, cet enfant se prolongeait longtemps. Il n'était pas nécessaire en effet d'appliquer la jeunesse trop longtemps à l'étude de la grammaire pour qu'il puisse l'apprendre. Il reste à savoir que ces récits frappaient continuellement les oreilles des enfants chrétiens au sein de la famille. Quels livres ils retournaient exclusivement dans leurs mains innocentes. Quels chants ils répétaient en commun. Eh bien, les chants, c'était les Beatles. Non, rassurez-vous, c'était... La réponse n'est pas douteuse. Chacun connaît le soin extrême des premiers chrétiens à se nourrir et à nourrir exclusivement leur jeune famille, de la lecture des livres saints, des actes des martyrs, des lettres des souverains pontifes, de lui apprendre par cœur et de lui faire chanter avec eux les psaumes de David, de l'instruire à fond des dogmes, des préceptes, des usages de la religion, afin que ces jeunes athlètes eussent, dans l'occasion, et le courage de confesser la foi au milieu des supplices, et la capacité nécessaire pour la revenger des sophismes et des calomnies. Ce genre d'instruction, ça se tourne, n'était pas nouveau. On le retrouve chez les Juifs, éloignés de leurs enfants tout autre livre que les annales sacrées de la nation, ne leur fera apprendre et chanter que des chants religieux de Moïse. Tel était le but. Ouais. Alors, maintenant, voilà ce que dit Saint Athanase. Non, ce que dit la constitution qu'on appelle la doctrine des apôtres, recueillie par Saint Clément. Constitution apostolique. Abstenez-vous de tous les livres des gentils qui avez-vous à faire de ces doctrines, de ces lois étrangères, de ces faux prophètes. Ces lectures ont fait perdre la foi à quelques hommes légers. Que vous manque-t-il dans la loi de Dieu pour que vous alliez recourir à ces fables? Si vous voulez lire de l'histoire, vous avez les livres des rois. S'il vous faut de la philosophie ou de la poésie, vous en trouverez dans les prophètes, dans Job, dans l'auteur des Proverbes, et avec plus de perfection et d'élévation que dans aucun autre ouvrage de ces sophistes et de ces poètes. C'est en effet la parole de Dieu qui seule est sage. Recherchez-vous du lyrique? Lisez les psaumes. D'antiques origines, la Genèse. Des lois et des préceptes de morale, prenez le code du Seigneur. Abstenez-vous donc absolument de tous ces ouvrages profanes et diaboliques. Quant à la lecture assidue de l'Écriture sainte par les enfants, à quel âge commençait-on? Dès qu'Origène, dit saint Eusèbe, fut sorti du berceau, son père, Léonide, imprima dans son esprit les lettres divines. Il ne se contentait pas d'accorder à cette étude quelques moments dérobés de l'enseignement cyclique. Il l'avait mise au premier rang. Chaque jour, il faisait apprendre à l'enfant quelques passages des Écritures et le jeune Origène y prenait plus de plaisir qu'à étudier les auteurs grecs. Voilà. Ainsi furent élevés Saint Basile et Saint Grégoire de Nice, leurs frères et leurs sœurs, Saint Grégoire de Nazianze, Césaire, Macrine, une de leurs sœurs, devenue institutrice, renchérit encore sur ses parents et sur ses maîtres. Ayant fait vœu de virginité, elle porta sur le plus jeune de ses frères, qui avait vu naître, toute cette tendresse maternelle que les femmes ont naturellement dans le cœur. Elle prit le jeune enfant au berceau et voulut elle-même le bien élever selon ses idées. Or, ces idées, quelles étaient-elles? Écoutons maintenant son illustre frère, Saint Grégoire de Nice, nous faisant connaître quelle avait été l'éducation de Macrine. À peine Macrine fut-elle sortie de l'enfance, dit-il, qu'elle montra la plus heureuse facilité pour apprendre. C'était sa mère qui avait voulu être son institutrice. Elle étudiait elle-même pour s'instruire. Elle se garda bien de lui enseigner les fictions des poètes dont on se plaît à remplir les jeunes esprits. Il lui semblait peu décent, même dangereux, de représenter à l'imagination de sa fille ses tableaux, ses mouvements passionnés que retracent les poètes tragiques, encore plus les faiblesses qu'on attribue aux femmes dans les comédies. Elle avait donc mieux aimé faire un choix des traits les plus édifiants, des maximes les plus frappants de nos livres saints, et sa petite fille les apprenait. Le livre de la sagesse lui avait fourni une multitude de sentences qu'il faisait apprendre par cœur. Cette excellente mère avait extrait des psaumes certaines invocations qu'elle a me commandé à tous les exercices, de sorte que soit que sa vie se leva ou ses biens ou prit ses repas, elle avait toujours quelques versets d'un psaume approprié à la circonstance. Voilà, etc. Puis ça continue. Voilà. C'est par l'écriture même, dit le même à l'état, que votre enfant apprendra à lire, à écrire, à parler, que sa jeune langue prenne et apprenne à redire les suaves cantiques du roi prophète, qu'on ne lui permette point de former des assemblages de mots pris au hasard. On choisira ces mots dans les Saintes Écritures. Le premier livre qu'il apprendra par cœur, courage, sera le psautier, 150 psaumes. Bon, ces divins cantiques, il les chantera à son réveil. Dans les Proverbes de Salomon, il apprendra à vivre avec sagesse. Dans l'Ecclésiaste, à fouler aux pieds les choses du monde. Dans Job, la vertu de patience et de courage. Elle passera ensuite à l'Évangile pour ne plus le quitter. Elle s'identifiera avec les actes des apôtres et les épis des apôtres. Chaque jour, elle vous en récitera quelques passages qui seront comme un bouquet de fleurs. Gardez-la de toutes ces lectures qui introduisent un langage païen au sein même du christianisme. Que peut-il y avoir de commun entre les chants profanes du paganisme et les chastes accords de la lyre des prophètes? Comment pouvoir allier Horace avec David, Virgile avec l'Évangile? Alors voilà, etc. Et ce n'était pas la seule. Ce n'était pas la seule. Vous avez Saint Paul qui était dirigé par Saint Jérôme. C'est pareil. Tant qu'elle fut revêtue d'un corps mortel, elle se regarda comme un lieu d'exil. Et elle disait d'une voix éplorée, hélas, que mon pèlerinage est long. J'ai demeuré avec les habitants du Cédar. Mon âme a y été trop longtemps étrangère. Psaume 109. Elle disait souvent, je suis étrangère et voyageuse comme tous mes pères. Psaume 38. Et encore, je désire être dégagée des liens de la chair et être avec le Christ. Première aux Philippiens. Quand elle était accablée d'infirmité qu'une incroyable abstinence et des jeûnes redoublés causaient à son corps, elle avait à la bouche ces paroles, je traite rudement mon corps et je l'ai réduit en servitude, de peur qu'en instruisant les autres, je ne sois même repoussé. Ou encore, j'humilie mon âme par le jeûne. Jamais un pauvre ne revint auprès d'elle les mains vides. Elle avait sans cesse à la bouche ces paroles, bienheureux les cœurs miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricordieux. S'il arrivait que l'insolence d'un ennemi alla jusqu'à lui dire des paroles offensantes, Paul chantait ces mots du psautier, lorsque le pécheur se levait contre moi, je me taisais et je gardais le silence. Ou encore, mais moi, pareil à un sourd, je n'entendais pas, et j'étais comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Son éducation était profondément publique. Et ça, c'est un exemple. Alors, je suis obligé d'abréger, parce que je ne pensais pas pouvoir tenir une heure, que ça se passe. Donc, ça, c'est pour l'éducation de l'enfance. Après l'enfance vient l'adolescence. Que se passe-t-il? Eh bien, après l'adolescence, on autorisait les enfants à étudier les auteurs païens. Parce que, surtout dans les premiers siècles, on y a vu une nécessité. Premièrement, quelle était cette nécessité? C'était de connaître l'histoire de leur pays et des autres peuples aux alentours, écrite par des mains païennes. Il fait qu'ils le connaissent. Mais ayant été formés par le christianisme, eh bien, ils n'étaient pas atteints par les choses mauvaises qu'ils pouvaient rencontrer. S'initier aux arts, aux sciences physiques, naturelles, médicales, dont le monopole appartenait également au paganisme. Troisième raison d'étudier les auteurs païens, c'est de rendre au christianisme héritier de toutes choses les vérités que le paganisme avait tronquées. Voilà. Donc ces raisons... Voilà. Alors quand ils étudiaient ces choses-là, Tertullien, témoin oculaire de cette sage conduite, disait « Nos jeunes gens sont aussi en sécurité que celui qui, connaissant le poison présenté par celui qui ne connaît pas, le reçoit et ne le boit point. la nécessité des excuses, d'étudier les païens, car ils n'ont pas d'autres moyens pour s'instruire dans ce monde. Ce qui est dit une nécessité pour la jeunesse, il le change en crime en le faisant de plein gré en parlant des païens. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'à la fin du, jusqu'à la fin du 5e siècle, l'éducation des enfants est essentiellement une éducation religieuse. Les auteurs païens sont abordés, mais secondairement, et comme pour pouvoir répondre aux arguments des païens. Voilà, c'est ça. Alors, il faut conclure, parce qu'il leur tourne. Et qu'est-ce qu'il faut-il dire ? Actuellement, l'Église, je vous l'ai dit, n'a pas changé. Donc, on ne peut pas ignorer que la Providence elle-même, qui a fixé son siège à Rome, a voulu que le christianisme grandisse dans cet empire romain. L'Église a le devoir de prendre chez les païens tout ce qu'il y a de vrai. Tout ce qu'il y a de vrai. Monseigneur Gaume a dit quelque part que la religion des païens, c'est la religion du beau. D'où toutes ces choses qui sont très belles, sans doute, mais qui sont aussi, par le fait même, des fois scandaleuses, comme les statues dénudées. C'est le culte du beau, partout où il se trouve. La religion chrétienne, c'est le culte du vrai. La religion chrétienne, c'est le culte du vrai. Voilà pourquoi il y a une profonde différence dans les premiers siècles chrétiens, dans l'art, dans la littérature, dans la peinture, avec les siècles avant notre Seigneur. On ne voit plus les choses sous le même aspect. Mais l'Église, elle, ira chercher chez les païens ce qui est vrai, elle va se les approprier, elle va les christianiser. Je vous ai parlé tout à l'heure de la crise qui a eu lieu au XVe siècle, parce qu'au XVe siècle, on a été recherché justement cette autre partie du beau. On a voulu penser comme les païens, voir comme les païens. Eh bien, figurez-vous qu'on y est arrivé et on a fait de vrais chrétiens, eh bien, de vulgaires païens. Voilà. Et ceci, c'est une des conséquences de cette espèce de renaissance. Au Ve siècle, on ne fait pas les choses de cette manière-là. Au Ve siècle, jusqu'au Ve siècle, même on peut dire jusqu'au XIVe siècle, dans l'Église catholique, on s'approprie ce qui est bien et on écarte ce qui ne correspond pas à la loi divine. Un des plus grands exemples au point de vue littérature, ce sera saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a une connaissance des auteurs païens hors pair. Il a cité des auteurs païens qu'on ne connaissait pas. Et il savait par cœur. Et pourtant, c'est saint Thomas d'Aquin. Au XVe siècle, c'est plus ça du tout. On pense qu'on est païen. On ne fait plus de distinction. Alors, l'Église, actuellement, sachant ce problème, a renforcé au siècle dernier cette fameuse loi de l'index qui avait pour but de fixer, de dire si tel livre, on pouvait le lire, ou si tel livre, on ne pouvait pas le lire. Normalement, les censeurs faisaient très bien leur travail. Cette loi a été encore renforcée sous le pontificat de Saint Pie X, de manière très forte. Pratiquement, ce qu'on trouve au début du siècle avec l'imprimatur, en général, on peut le prendre. Quoi. On peut vous montrer quand même que l'Église a protégé. Alors, je pense qu'on peut terminer la conférence là, et c'est que l'Église prend tout ce qui est vrai à travers les âges, dans la littérature, pour servir au règne de Dieu. Est-ce que vous avez des questions à poser ? La lecture de Platon, quand on regarde la vie de Platon, on est effrayé de mettre ses livres entre les mains de la jeunesse qui ne serait pas préparée. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre notre époque et l'époque où Monseigneur Gaume est même des premiers chrétiens, c'est qu'actuellement, l'ennemi le sait. Il a pris un contrôle de l'éducation, et particulièrement ici au Québec, comme jamais ça s'est trouvé dans les siècles passés. Dans les premiers siècles de l'Église catholique, les païens laissaient les chrétiens tranquilles avec l'éducation. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Actuellement, vous n'êtes plus tranquille. Vous êtes obligé d'avoir les livres qu'ils veulent. Vous êtes obligé d'avoir la manière d'enseigner qu'ils veulent. Vous êtes obligé d'avoir les examens qu'ils veulent. Donc, on est beaucoup plus surveillé. On est dans un état totalitaire sur le plan de l'éducation. Alors, tout repose actuellement sur ce qu'ils vont recevoir dans l'enfance. Plus l'éducation dans l'enfance sera profondément chrétienne, moins l'enfant sera perméable aux idées du monde. Et moi, j'ai des exemples, j'ai un exemple précis, la danse de la région du Québec, qui est remarquable. Les jeunes gens n'ont jamais été à l'école à l'extérieur. C'est la mère qui leur a parlé uniquement de l'Ancien Testament et de la Bible du Nouveau Testament. Ils ont un jugement très sûr, très très sûr. Un jugement magnifique. Et on sent qu'ils sont imperméables. On peut être sûr de ce qu'ils... ils peuvent aller n'importe où, ils sont imperméables au monde. Ils sont dans le monde, ils vivent avec le monde, ils sont imperméables. Est-ce que je réponds à la question ? Le chanoine Berthaud, qui était un professeur qu'on avait en Suisse, qui n'était pas le dernier venu, nous disait qu'on a raté en France le coche au siècle dernier lorsqu'il a été question de l'école. Les catholiques avaient combattu pour avoir les écoles et on aurait pu dire à l'État, de vos examens, nous pouvons nous en passer, parce que les catholiques étaient encore assez forts. Malheureusement, le libéralisme est intervenu à ce moment-là et ils ont voulu faire un compromis qui amène à la déchéance que nous avons actuellement. On a accepté les examens de l'État et c'est tout ce que l'État demandait. Dans les combats qui ont eu lieu ici, au siècle dernier, entre Mgr Laflèche et Wilfrid Laurier, et puis également entre les évêques canadiens et le problème du Manitoba, les écoles du Manitoba, il a été écrit ceci, de mémoire, je vous le cite, « Vous voulez, c'est les francs-maçons qui disent aux catholiques, vous voulez une école catholique, je vous donnerai une école catholique. Vous voulez des livres catholiques, je vous donnerai des livres catholiques. Vous voulez un professeur catholique, je vous donnerai un professeur catholique, mais je vous donnerai le directeur que je veux. » C'est tout. Les francs-maçons, ils savent ce qu'ils font. Et en faisant ça, ils gouvernent. Voilà pourquoi actuellement, il faut absolument faire confiance à ce qui est fait par la fraternité. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'autre solution. Mais encore une fois, moi, je suis persuadé que tout repose dans l'éducation des enfants à la maison. Et le catéchisme par cœur ne suffit pas. Il faut donner les raisons profondes. C'est-à-dire qu'il faut mettre les enfants au contact avec la Bible, avec l'histoire de l'Ancien Testament. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, vous avez tout, toutes les bêtises qui peuvent se faire, et vous avez la manière dont Dieu châtie, la manière dont Dieu punit. Vous avez des exemples magnifiques, Samuel, vous avez le petit David là, qui court après Goliath, qui lui coupe la tête, là c'est magnifique ça, non? C'est magnifique pour David. Il y a eu, dans l'Antiquité chrétienne, des contes, oui, mais des contes païens, qui ont été systématiquement, par exemple, Apulée de Mador. C'était un auteur qui racontait des contes, qui inventait des histoires. Les principales histoires inventées, c'était surtout les histoires des dieux. Et quand on s'en lassait, eh ben on en rajoute un petit peu, quoi. L'essentiel, c'était vraiment l'histoire de la Bible. Alors, une des preuves comme quoi les premiers chrétiens étaient très versés dans l'étude de l'Ancien Testament, c'est le fait de lire les sermons des pères de l'Église. Quand on lit les sermons de saint Augustin et qu'on songe à qui il s'adressait, on se dit, mais comment il faisait pour comprendre tout ça, quoi? Parce que c'était des gens qui connaissaient comme il faut la Bible. Ils connaissaient que la Bible, mais ils avaient une connaissance de la Bible surprenante. Très, très surprenante. Vous comprenez? On lisait également, si vous voulez, les récits des martyrs. On ne se contentait pas seulement... C'est ça. Oui, on lisait les récits des martyrs. Les grands faits des hommes de foi, si vous voulez. Même les frères guerriers, pour la gloire de Dieu. Ça, on les lisait. Et on en tirait des leçons très fortes. Par exemple, aujourd'hui, parce que Attention. Le problème, c'est que c'était pareil pour, au VIe siècle. Saint Grégoire le Grand constate qu'il y a une baisse de la foi. Et pour pouvoir répondre à cette baisse de la foi, Saint Grégoire le Grand va écrire un livre qui s'appelle « Le Dialogue ». Le dialogue, ce sont les récits de faits surnaturels dont Saint Grégoire a eu vent et qu'il va raconter à son diacre, je ne sais plus le nom du diacre, en marchant. Et c'est comme ça que nous avons, par exemple, la vie de Saint Benoît, on l'a uniquement là, la vie essentiellement de Saint Benoît, également de Saint Jean Cassien. Saint Jean Cassien, ça vient de là également. Et si vous lisez le dialogue de Saint Grégoire le Grand, puisque c'est Saint Grégoire le Grand, on dirait que c'est très compliqué, ça se boit comme du petit lait. C'est extraordinaire. Et puis ça vous met en ferveur. Alors c'est mieux qu'un conte, c'est un fait surnaturel qui a l'avantage d'être vrai. Parce que quand on parle d'un conte, eh bien, on parle surtout quelque chose d'une fiction. On ne dit pas que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible, mais c'est une chose qui n'a pas eu lieu. Tandis que les vies des saints, et il y en a les vies des saints, et bien tout de suite ça vous met en faveur. Tout de suite. Et les premiers chrétiens collectionnaient les vies des saints, des martyrs, etc. Quoi. On ne connaît pas tous les martyrs des premiers siècles. On pense qu'il y a eu entre 18 à 20 millions de martyrs, rien que... Alors, rien que c'est fait, quoi. Les conversions extraordinaires, quoi. C'est un chiffre que je trouve la citation. C'est banni du programme. Ici, vous avez un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Le passage de l'hellénisme au christianisme », livre qui a été édité par M. Maurice Lebel, professeur à Laval, et je peux vous dire que c'est tout à son honneur. C'est un livre qui a pour auteur Guillaume Budet. Donc Lebel a édité ce livre-là de M. Budet, lequel vivait, si mes souvenirs sont bons, à l'époque de François Ier, 15e, 16e siècle. Guillaume Budet a appris le grec en cachette pour ne pas être brûlé sur la place publique. C'était sévère, parce qu'on lui disait, s'il peut apprendre le grec, il va tomber dans les mains des littératures païennes, on va être embêté. Alors, pour pouvoir l'apprendre, il s'est caché, il le savait. Et il est devenu pratiquement le premier philologue à cette époque. Il a écrit un dictionnaire, donc la philologie, c'est la science du mot. La science des racines du mot, le radical, etc. Bon, il a écrit un livre, je crois que c'est 70 000 mots, il faut que je vérifie le chiffre, donc c'est énorme. Pour pouvoir ce faire, il a lu tous les auteurs de l'Antiquité, donc toutes les pièces de théâtre grecques. Les Grecs sont surtout célèbres pour leur théâtre, des théâtres très forts, qui étaient toujours des espèces de leçons de morale sur la politique qu'on voulait donner aux grands de ce monde. Il a lu tous les auteurs latins. Il a lu tous les auteurs, les pères grecs. Il a lu tous les pères latins, donc une grosse tête. Et après, il a lu la Bible. Quand il a lu la Bible, il a dit « J'ai perdu mon temps en lisant les auteurs païens ». Et il dit « Il y a une différence fondamentale entre les philosophes de l'Antiquité et puis les philosophes chrétiens. Entre la philosophie naturelle, et j'aime beaucoup cette expression, il dit « et la philosophie évangélique, la philosophie évangélique, qu'il appelle aussi la philosophie nouvelle. La philosophie nouvelle. La philosophie de l'Antiquité, c'est uniquement l'art de bien mourir. La philosophie évangélique, c'est l'art de connaître et d'aimer Dieu. » Et il se plaint, il dit à notre époque, on ne connaît plus la parole de Dieu. Il dit, nous ne connaissons de la parole de Dieu uniquement que le fourreau. La parole de Dieu qui est un glaive, on ne le connaît pas. On connaît l'aspect extérieur, on ne connaît pas le glaive lui-même.